On va commencer notre entretien avec le romancier Pierre Lemaître par une lecture.
Ceux qui pensaient que la guerre commencerait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps, Monsieur Jules le Premier. Plus de 6 mois après la mobilisation générale, le patron de la petite Bohème, découragé, avait cessé d'y croire. À longueur de service, Louise l'avait même entendu professer qu'en réalité, cette guerre, personne n'y avait jamais vraiment cru. Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe, avec des discours patriotiques spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échecs dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Bon, il y a bien eu quelques morts ici et là, davantage sans doute qu'on ne nous le dit. Cette agitation dans la Sarre en septembre, qui avait coûté la vie à 200 ou 300 bons hommes, enfin, c'est pas ça une guerre, disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne, qu'on oubliait aujourd'hui sur le coin du buffet, étaient devenus des sujets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire à un rituel assez stérile. C'était des alertes sans avion, une guerre sans combat qui traînait en longueur. La seule chose tangible était l'ennemi. Toujours le même, celui avec qui on se promettait de s'étriper pour la 3e fois en un demi-siècle, mais qui ne semblait pas disposé lui non plus à se jeter à corps perdu dans la bagarre, au point que l'état-major, au printemps, avait permis aux soldats du front... Alors là, Monsieur Jules passait son torchon dans l'autre main et pointait son index vers le ciel pour souligner l'énormité de la situation, de cultiver des jardins potagers, je te jure, soupirait-il. Aussi, l'ouverture effective des hostilités, bien qu'elle eût lieu dans le nord de l'Europe, trop loin à son goût, lui avait-elle redonné du cœur à l'ouvrage. Il clamait à qui il voulait l'entendre, avec la pile que les alliés sont en train de mettre à Hitler du côté de Narvik, ça va pas durer longtemps. Et comme il estimait que cette affaire était close, il pouvait se concentrer de nouveau sur ses sujets favoris de mécontentement, l'inflation, la censure des quotidiens, les jours sans apéritif, la planque des affectés spéciaux, l'autoritarisme des chefs d'îlots, les horreurs du couvre-feu, le prix du charbon, rien ne trouvait grâce à ses yeux, à l'exception de la stratégie du général Gamelin qu'il jugeait imparable. S'ils viennent par la Belgique, c'est prévu. Et là, je peux vous dire qu'on les attend. Louise, qui portait les assiettes de poireaux vinaigrettes et de pieds paquets, aperçut la moue dubitative d'un consommateur qui murmura « Ouh, prévu, prévu, bon, enfin !» hurla Monsieur Jules en revenant vers le zinc. « Mais par où tu veux qu'ils arrivent ?» D'une main, il rassembla les présentoirs de durs. « Là, t'as les Ardennes, infranchissables !» Avec son torchon humide, il traça un grand arc de cercle. « Là, t'as la ligne Maginot, infranchissable. Alors, d'où tu veux qu'ils viennent ? Reste que la Belgique !» Sa démonstration achevée, il se replia vers la cuisine en bougonnant. Pas nécessaire d'être général pour comprendre ça. Merde alors.
Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour Caroline.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et merci infiniment pour cette première lecture.
Ça réveille.
Ah, ça réveille carrément. Vous aimez lire à voix haute?
J'aime beaucoup. Et vous savez, non seulement j'aime beaucoup le faire, et je le fais puisque les 3 livres, c'est moi qui les ai enregistrés pour Audiolib, mais en plus, quand j'écris, j'essaye de le faire un petit peu comme si je racontais l'histoire à voix haute. Vous voyez, ça fait partie de mon travail stylistique.
Certains écrivains relisent à voix haute ce qu'ils ont écrit pour voir si précisément le rythme est là, la phrase.
Oui, c'est le syndrome flaubertien, oh, n'est-ce
exactement.
Pas
hein,
c'est ça le gueuloir. Alors moi, je l'ai pas parce que j'ai toujours l'impression d'être un peu ridicule quand je fais ça dans mon bureau, même à mes propres yeux. Mais par contre, c'est vrai que quand je retravaille les textes, j'essaye de me les dire dans la tête parce que le rythme parlé fait vraiment partie de mon projet. J'ai l'impression d'être plutôt un conteur.
Pierre Lemaître, ce que vous nous avez lu là, c'est donc le début, ligne qui pite en langage, en jargon littéraire, de Miroir de nos peines qui a paru chez Albin Michel, qui est le 3e et dernier volet de la trilogie des Enfants du désastre, entamé avec Au revoir là-haut en 2013, qui était prix Goncourt, et puis poursuivi avec Les couleurs de l'incendie en 2018. Il se trouve que Miroir de nos peines, qui est sorti il y a quelques semaines à peine, quelques jours, est déjà en tête du classement des meilleures ventes pour les romans début janvier, en 2e position dans le palmarès des livres tout genre confondu après Astérix. Alors quand on sait qu'Au revoir là-haut figure en 10e position des meilleures ventes de la décennie, on se demande vraiment pourquoi vous avez arrêté, pourquoi vous avez choisi que ce soit effectivement le dernier, pourquoi pas continuer ?
Parce qu'il y avait une unité temporelle avec l'entre-deux-guerres. J'avais entamé un roman sur la fin de la Première Guerre mondiale, aller jusqu'au seuil de la Seconde me paraissait, je dirais, un projet élégant. Vous savez, c'était presque une forme un peu abstraite. De temps en temps, le projet littéraire peut prendre une forme presque géométrique. Et c'est vrai que je trouvais que ces trois décennies qui faisaient une triade, il me semblait que c'était un bel objet littéraire. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas poursuivre ma visite du siècle.
Mais en tout cas, la trilogie à écrire, bien sûr.
Mais la trilogie elle-même, je trouve qu'elle a sa pertinence.
Alors, cette trilogie s'achève donc sur les années 40. C'est même pas les années 40. C'est quelques jours entre le 6 avril et le 13 juin 1940. Pourquoi cette période-là très précise, Pierre Lemaitre ?
Alors, pour faire comprendre au lecteur la panique qui va saisir le peuple français au moment de la débâcle, il fallait commencer le livre sur la drôle de guerre. Mais non, comme c'est une guerre assez immobile, il n'y a pas grand-chose à en faire sur le plan romanesque. Donc j'ai choisi de prendre vraiment les derniers jours de la drôle de guerre pour faire sentir le rythme de cette guerre qui n'arrivait pas, d'où son nom de drôle de guerre, je crois l'expression est de d'Orgelès. Et donc, pour faire comprendre l'effet de saisissement dans lequel s'est trouvé pris la population, il fallait, je crois, commencer par les derniers jours de 40. Donc, en fait, on a les derniers jours de la drôle de guerre, et puis très rapidement, la débâcle et l'exode. Mais tout ça se fait en quelques jours, quelques semaines. C'est incroyablement fulgurant.
Vous parlez d'immobilité. Précisément, dans votre livre, on pourrait le séparer en deux. Il y a une partie qui est immobile, et puis assez rapidement, on va vers une partie extrêmement mobile, puisque vous suivez l'exode des Français. On est sur les routes, on commence à Paris, mais ensuite, on s'en échappe. On est sur la ligne Maginot avec vos différents personnages, on est au camp des Gravières, on est à Saint-Rémy-sur-Loire, ou vers Saint-Rémy-sur-Loire. Ces lieux-là sont extrêmement précis historiquement, puisqu'il faut dire que, à chaque fois dans vos romans, Pierre Lemaitre, rien n'est vrai, mais tout est vrai, puisqu'il y a un rapport à l'histoire qui est un rapport très particulier et très précis.
Oui, j'aime bien cette expression, rien n'est vrai, tout est vrai. Alors, encore, rien n'est exact. Rien n'est exact, c'est-à-dire que, si on le lit avec un petit peu d'attention, on va trouver plein de choses. Quelqu'un m'a signalé très gentiment, par exemple, que ma Peugeot 90S eh bien, aurait dû être une Peugeot 190S. Alors moi, j'accepte la critique avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on corrigera la prochaine version. Vous voyez, je ne sais pas des fautes exprès. Mais disons que l'exactitude m'intéresse moins que la vérité historique. Alors, je mets plein de guillemets, puisque la vérité historique est une chose bien relative. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte, par exemple, vous voyez, pour cette période-là, je me dis, si on a un jeune lecteur de 18 ou 19 ans qui ne connaît pas l'exode, et que la seule vision qu'il a de cet événement historique, c'est mon livre, j'aimerais bien qu'il reparte pas avec une idée trop fausse, vous voyez, parce que je trouve que là, il y a une responsabilité morale de l'écrivain. On peut raconter sur l'exode plein de choses, et on peut y mettre des choses qui n'ont pas existé, c'est pas un problème. Mais je pense que sur l'enveloppe de l'événement et sa compréhension dans le siècle, il me semble quand même que ça serait une mauvaise action que de faire vriller l'histoire pour ceux qui ne compteront que sur votre livre pour comprendre.
Vous avez mis des événements très connus, l'exode, avec un grand E, moment-là, en 1940, et puis d'autres moins connus, comme l'exode pénitentiaire. Et c'est pourtant un fait réel, puisqu'on y est, qui a eu lieu en juin 1940. Racontez-nous, Pierre Lemaitre.
C'est tout à fait étrange. Il y a une véritable psychose gouvernementale anticommuniste dans cette période-là. Rappel, le Parti communiste est interdit, et beaucoup de communistes sont dans les prisons, notamment la prison militaire du Cherche-Midi. Et le fantasme des gouvernants, c'est que ces gens-là vont se soulever des prisons, aidés par des communistes, pour aller aider les nazis à prendre la capitale. Bon, c'est un fantasme parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour le prouver, sauf qu'ils en sont sûrs. Et donc, ils imaginent quelque chose d'inimaginable. C'est, en fait, on va prendre tous ces prisonniers, 1200, 1500, je ne sais plus combien ils sont, et on va les mettre sur la route en direction du sud. On va les emmener du côté de Pau, de Tarbes, vous voyez, du côté des Pyrénées. Alors, on les emmène d'abord dans un bus, et puis les bus, très vite, ils n'ont plus d'essence, plus rien, et donc on les met à pied. Alors, on a des centaines de types gardés par quelques dizaines de gendarmes qui vont, comme ça, aller sur les routes, se mêler à l'exode, 50% d'évasion. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à l'effet exactement inverse de celui qui était voulu par les gouvernants. On voulait garder ces gens-là, sauf qu'ils s'échappent tous, quoi.
Pierre Lemaitre, vous disiez qu'il était important que des jeunes lecteurs de 18-20 ans comprennent de quoi il s'agit et donc que vous donniez des informations justes, réelles, vraies. Ce qui est intéressant, c'est que parfois vous disséminez ça et là au cœur du roman. Non pas comme l'exode pénitentiaire, parce que l'exode pénitentiaire, vous le racontez, vous le mettez en scène à travers vos personnages. Mais parfois, des petites informations qui sont à l'arrière-plan. Par exemple, à propos de l'armistice, on apprend au détour d'une phrase, au milieu d'une phrase, qu'un cessez-le-feu concernant Paris avait été signé sous la menace des Allemands de détruire la ville. Quelqu'un avait entendu dire, puisque c'est la radio à ce moment-là, hein, quelqu'un avait entendu dire que sur tous les bâtiments publics, les drapeaux français avaient été remplacés par des drapeaux à croix gammée. Le soir, ils apprirent qu'en l'absence de journaux, des voitures circulant dans les rues diffusaient des messages par haut-parleur à l'intention de la population, les informant que les troupes allemandes occupaient la capitale. Ou encore, vous nous apprenez, ou en tous les cas vous apprenez à vos jeunes lecteurs potentiels, ce qu'est le concept en histoire de ville ouverte, puisque à un moment, on sait, page 366, que Paris a été déclarée ville ouverte. Et puis, vous nous l'apprenez, ville ouverte, demandait le jeune communiste à Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire ? Le voilà qui explique ville ouverte. Donc il y a comme une dimension pédagogique du romancier. Est-ce que ça fait partie de l'usage de l'histoire pour vous ? Parce que j'ai très envie de vous demander pourquoi vous vous intéressez autant à l'histoire en tant que romancier.
Alors, c'est pas trop une volonté pédagogique. Je ne l'utilise qu'à la condition que ce soit nécessaire au personnage et ou nécessaire à l'intrigue. Ce que j'aime le moins dans les romans historiques, c'est le fait que certains de mes confrères, mes consoeurs, veulent absolument faire rentrer tout ce qu'ils savent. Alors, on a des livres qui sont pour le coup drôlement pédagogiques, et on a des gens qui veulent absolument rentabiliser leur documentation, et donc, en fait, ils saucissonnent leur intrigue avec des passages un peu didactiques, un peu comme dans Jules Verne. Vous voyez, bon. Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aime bien que l'histoire, elle serve à mon histoire, et je fais pas l'inverse. Donc, par exemple, le concept de ville ouverte, j'ai besoin à un moment que ce concept, il va servir dans mon intrigue. Alors, il faut l'expliquer, parce que moi-même, quand je l'ai découvert, je le connaissais pas, ce concept. Donc, je l'explique en me disant, il n'y a pas de raison que j'ai des gens plus savants que moi, vous voyez, ça fait partie de la prétention des auteurs. Donc je le fais quand c'est utile à l'intrigue.
Pierre Lemaître, on va écouter un extrait. Vous n'allez pas forcément, chers auditeurs, comprendre tout de suite quel est le rapport entre ce qu'on va entendre et le livre. On comprendra après.
Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé la vue de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur.
Alors expliquez-nous pourquoi on entend Eddie Mitchell. Est-ce que vous le savez?
Oui, c'est très amusant. J'ai été repêché, ça c'est très malin. Il s'appelle Claude Moine, hein, Eddie
Mitchell.
De son
vrai nom, oui.
Alors écoutez, il se trouve qu'à un moment dans le roman, j'ai besoin que mon curé prononce une homélie. Alors je ferme les yeux, je me dis voilà, il est dans la chapelle, je vois l'autel devant lui, je le vois s'avancer, je me dis comment il fait. Alors il met les bras comme ça, un petit peu en V, il s'adresse. Et puis ce qui me vient, c'est mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, comme dans la chanson d'Eddie Mitchell. Alors ça me fait rire tout de suite, donc je l'écris, je le garde, et puis comme je le fais dès que j'emprunte quelque chose à quelqu'un, dans les remerciements, je mets Claude Moine. Et je sais que les
au milieu gens... de Aragon, Dostoïevski,
oui,
etc.
Oui, c'est assez éclectique.
Claude Moine,
c'est assez éclectique, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens que ça fait éclater de rire, et je pense que ça fait aussi partie du clin d'œil permanent que j'essaye d'entretenir avec le lecteur. Alors, c'est un peu brechtien, ça. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, cette idée que c'est quand même bien que le lecteur, il sache que tout ça, ce n'est quand même que de la littérature.
Oui, mais il y a vraiment une forme de jubilation, on sent, dans votre écriture. Et puis, une jubilation, du coup, du lecteur, nécessairement. Mais, comme cette phrase, très étonnante, page 506. Il s'éloigna, peu importe qui. C'est aussi ce que nous allons faire, écrivez-vous. Louise et Raoul ont besoin d'intimité, et puis, nous connaissons l'histoire. Mais vous vous amusez vraiment avec nous.
Oui, mais, alors, cet appel au lecteur, cette interpellation, c'est quelque chose qu'on trouve à partir de Diderot, hein, on trouve les premières pages de Jacques le Fataliste, par exemple, et c'est quelque chose qui a beaucoup accompagné la littérature du XVIIIe et XIXe siècle. Et moi, je sais qu'en tant que lecteur, quand Dumas disait « Le lecteur se souviendra sans doute que notre héros. C'était des choses qui me faisaient jubiler parce que j'avais vraiment l'impression que Dumas s'adressait à moi. Alors j'ai gardé ça. Alors j'essaie de ne pas en abuser. Hein. Comme j'ai tendance à en abuser, mon éditeur en enlève. Il a raison. Mais ça fait partie, je trouve, du lien d'amitié que j'ai envie de nouer avec le lecteur.
Et avec Alexandre Dumas, puisque ça n'est pas par hasard, Pierre Lemaître, que vous citez Alexandre Dumas, il fait partie de votre panthéon littéraire. Plus Dumas que Hugo.
Alors, Hugo, plus sur le fond, sur le plan politique, j'ai envie de dire, et plus Dumas sur la forme, c'est-à-dire sur le feuilleton, et sur le rythme, et sur le découpage. Vous savez, j'ai relu Les Misérables cette année. Hugo est un immense écrivain, mais c'est un piètre scénariste.
Ah, vous iriez jusque-là.
Oui, c'est un piètre scénariste parce que, en fait, beaucoup d'événements arrivent par le plus grand des hasards. Aujourd'hui, on écrirait une chose pareille, tout le monde le verrait. Bon, à l'époque, ça passe très bien. Je veux dire, c'est aussi un état de la culture et la manière de lire au 19e siècle. Hein. Et puis, en même temps, le livre emmène tellement de choses, il charrie tellement de choses, il est tellement puissant qu'en fait, on s'en fiche. Mais quand vous le lisez avec un œil de romancier et que vous essayez de voir comment l'intrigue est montée du point de vue de sa construction, vous vous rendez compte quand même que Dumas est quelqu'un de beaucoup plus savant sur le plan de la technique de l'intrigue. Hugo, c'est pas son problème. Son problème est ailleurs. Et ça, il le fait merveilleusement. C'est un plus grand écrivain que Dumas. Mais c'est un moins bon scénariste.
Aujourd'hui, on a les séries qui ont remplacé les feuilletons. Et comment fait-on, comment écrit-on, comme vous le faites, hein, de toute façon, Pierre Lemaître, comment fait-on pour écrire aujourd'hui un roman type 19e siècle en étant au 21e siècle avec les connaissances du 20e siècle sur l'histoire?
Alors, je crois que c'est vraiment dans la question de la construction, à mon avis, que se trouve la réponse. C'est-à-dire que un livre n'échappe pas au siècle dans lequel il est produit. Donc, de toute manière, il n'y a pas à se poser de questions. Quoi que vous fassiez, vous aurez un livre de votre siècle, hein. En creux, en plus ou en moins, mais enfin, je veux dire, c'est inévitable. Ça fait partie presque de l'inconscient collectif du texte, hein, c'est ce qui est charrié. En revanche, du point de vue de la construction, vous avez tout à fait raison, je crois, de parler des séries télé. Le lecteur est devenu beaucoup plus pressé, beaucoup plus impatient. Moi-même, je me rends compte, hein, que je suis beaucoup moins patient qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, quand je commençais un livre, je pouvais m'ennuyer 80 pages, mais je laissais sa chance à l'auteur. Aujourd'hui, au bout de 30 pages, ça commence à m'agacer un peu. Vous voyez? Et puis, les séries télé nous ont habitués à avoir des accroche très puissante, très nerveuse. La tension, c'est au cinéma, c'est aussi, je dirais, vu dans le montage qui est beaucoup plus étroit. Regardez un film d'il y a 25 ans, vous trouvez ça extraordinairement long. Donc nos usages de lecture et nos usages de consommateurs de l'intrigue a changé. Et donc vous êtes obligé aujourd'hui, si vous voulez être un auteur pour vous contemporain, alors quand on écrit pour la gloire ou pour la postérité, c'est autre chose. Mais moi j'essaie d'écrire pour mes contemporains. Alors il faut dans ce cas-là essayer de se plier à l'usage culturel qui est le leur.
Ce qui ne change pas, c'est l'émotion que suscite l'écriture, la vie ou le destin d'un personnage. Et ce qui fait, je pense, la grandeur de votre roman comme des précédents, et j'espère donc des suivants, Pierre Lemaître, c'est avant tout les personnages. Les personnages, bon, bah là, c'est une galerie de personnages très différents les uns des autres. On retrouve Louise, oui, qu'on avait laissée quand elle avait une dizaine d'années, qui a maintenant 30 ans. Et puis, des nouveaux personnages, vous en avez cité un tout à l'heure, on va s'arrêter juste sur ce personnage avant d'entendre les titres de l'actualité. Vous les citez parce que vous avez parlé du curé, du prêtre. Il n'a pas toujours été prêtre. Ce personnage, c'est Désiré. Il est extraordinaire, Désiré. Comment est-il né, Désiré?
Bah écoutez, il est né très... C'est une naissance très progressive. Parce qu'au début, j'avais simplement besoin d'un menteur. Puis après, je me suis rendu compte qu'il devenait mythomane. Puis après, il m'amusait tellement qu'il est devenu un usurpateur.
De toute façon, vous aimez bien les faussaires. Hein.
Oui, j'aime les faussaires. Oui. Peut-être en tant que faussaire moi-même. Hein. Allez savoir. En tout cas, ce personnage est monté en charge progressivement. Alors, il y avait deux choses. C'était d'abord qu'il m'amusait beaucoup, qu'il me faisait jubiler. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il s'intégrait parfaitement à l'intrigue, c'est-à-dire au moment de l'histoire dans lequel mon intrigue venait se situer. Il me permettait de faire vivre un certain nombre de concepts qui, à mon avis, font partie des harmoniques, hein, qu'on peut tisser peut-être ou trouver entre la période de 1940 et celle d'aujourd'hui.
Allez, à tout de suite, Pierre Lemaître. On vous retrouve dans deux minutes. Il est 7h30 sur France Culture. Pierre Lemaître est notre invité ce matin pour parler de Miroir de nos peines qui est sorti aux éditions Albin Michel. Pierre Lemaître, on entend parler beaucoup ces jours-ci, je ne sais pas si c'est un hasard, un concours de circonstances, de nouvelles années folles. On vivrait à nouveau les années folles. Alors vous qui êtes maintenant presque spécialiste de ces années-là, les années 20-40, disons, est-ce que vous trouvez des similitudes entre ce que vous avez lu et puis notre moment contemporain?
Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que inévitablement, entre deux périodes historiques, vous trouverez toujours des ressemblances, simplement parce que si vous regardez avec un peu d'attention une période, au fond, tous les grands universaux de l'humanité se retrouvent... Vous voyez, dès qu'il y a eu de l'argent, il y a eu des voleurs, dès qu'il y a eu de l'État, il y a eu de l'impôt, dès qu'il y a eu de l'amour, il y a eu de la passion, dès qu'il y a eu de la passion, il y a eu de la jalousie, bref, le fond de l'humanité reste le même, donc il est normal que, regardant une période, je sais pas, reculée de la Chine ancienne aujourd'hui, vous me disiez inévitablement « Oh, c'était déjà comme ça !» Bon, ça c'est un peu inévitable. Maintenant, je pense qu'il faut se méfier des ressemblances. Vous voyez, je ne suis pas si sûr que ça, par exemple, que nous revivions les années 30. Vous voyez, c'est un concept. En revanche, c'est un concept un peu embarrassant, me semble-t-il, de le plaquer. En revanche, je pense qu'il y a des résonances qui sont troublantes, et il me semble que la responsabilité de l'auteur, quand il écrit un roman historique, c'est justement de choisir ses ressemblances et de savoir sur ses ressemblances ce qu'il choisit d'en dire. C'est là où sa responsabilité est engagée. Alors, des ressemblances, il y en a. On parle de l'information, on parle du mensonge d'État, on va parler de la responsabilité politique, on va parler des camps de réfugiés, etc. Bon, c'est des choses qui appartiennent complètement à l'histoire des années 40, mais qui, à mon avis, créent des résonances aujourd'hui qui peuvent intéresser le lecteur.
Par ailleurs, il y a des questions ces temps-ci sur beaucoup de débats, sur le fait de savoir si on a raison d'expurger certains textes de certaines maisons d'édition, et ou alors si ce faisant, en fait, on n'est pas face à une sorte de retour à l'ordre moral, ou si c'est une nouvelle forme de censure. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce qui est en train de se passer du point de vue de la littérature? Est-ce qu'il y a une inquiétude de l'écrivain, ou est-ce que vous participez pleinement de ces débats, de ce mouvement aujourd'hui?
Je ne saurais pas bien vous dire, en vérité, où je me sens pas vraiment concerné, c'est que j'ai l'impression de savoir ce que je fais. Vous voyez, prendre la responsabilité morale de ce que j'écris ne me pose pas difficulté. Donc, je ne me sens pas dans le débat parce que je ne me sens pas en danger. Maintenant, le débat, il est réel. Prenons l'exemple, je pense, qui était sous-jacent à votre question, l'affaire de Gabriel Matzneff. Eh ben, moi, il me semble quand même que tout écrivain prend ses responsabilités, et au nom de la liberté de la création, on ne peut pas s'abstraire de toute obligation morale. Donc, je pense qu'on prend la responsabilité morale de ce qu'on écrit, on doit l'assumer. Voilà. Donc, moi, je prends mes responsabilités, je crois que je peux rendre compte de ce que j'écris, et il me paraît un peu problématique de prétendre après que ce qu'on a dit c'était pas tout à fait ça, que c'était tout à fait un petit peu autre chose. Vous voyez, bon, dans ces embarras, je sens un peu autre chose que la mauvaise conscience, je sens un peu de mauvaise foi.
Pierre Lemaitre, dans une interview récente au Journal du Dimanche, c'était fin décembre, vous avez déclaré que nous étions entrés dans une démocratie autoritaire, et vous vous êtes demandé même si Marine Le Pen aurait fait pire. Alors, on vous connaît en colère, on vous connaît aussi en engagé. Mais est-ce que vous êtes vraiment particulièrement en colère ces temps-ci pour dire des choses comme ça?
Oui, alors c'est vrai que c'est un cri de colère, mais c'est vrai que lorsque je vois les violences policières qui, à mon sens, sont indéniables, quand on voit des policiers matraquer à 3, à 4 un manifestant à terre, je me dis, est-ce que la police d'un gouvernement mené par le Rassemblement National aurait une police aussi désinhibée, aurait une police aussi violente? Voyons quand même que dans les journaux européens, on a actuellement des articles, dans le Guardian récemment, disant la France a la police la plus violente d'Europe. Aurions-nous une police plus violente si Marine Le Pen était au pouvoir? Alors, je ne dis pas que les deux régimes se valent. Je dis seulement que j'ai voté, moi, pour Emmanuel Macron parce que je pensais qu'on préserverait les libertés individuelles, les libertés fondamentales. Or, ces libertés fondamentales sont actuellement foulées aux pieds. Le droit de manifester est constitutionnel, on est en train de le contester. On est en train aujourd'hui d'essayer d'intimider les gens pour qu'ils restent chez eux. On a entendu un policier qui n'a absolument pas été inquiété dire à une manifestante « Si vous voulez rester en vie, rentrez chez vous ». C'est inadmissible. Est-ce que la police du Rassemblement National dirait des choses différentes? J'ai l'impression que non, pas très différemment. Alors, nous sommes à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. J'ai encore 1000 fois, comme tout le monde, le droit de changer d'avis. Mais aujourd'hui, ma colère est là. J'ai voté pour un gouvernement en pensant préserver des libertés individuelles. Or, toutes ces libertés individuelles sont en train de fondre. J'invite à tous ceux qui nous entendent à écouter, par exemple, une interview donnée à France Inter récemment par Maître Sureau, hein, qui n'est pas connu pour être un gauchiste, vous voyez, particulièrement, et il analyse extrêmement bien la disparition de ses valeurs.
Maître François Sureau, qui participera d'ailleurs lundi soir à un grand colloque sur ses libertés publiques, mais je vous invite à y aller si vous êtes à Paris, ça sera au CNAM. Merci beaucoup Pierre Lemaitre. Alors évidemment, ça passe très vite, on avait envie de vous faire lire à voix haute encore quelques extraits, mais on se rattrapera en mettant, allez, au moins 2 sur notre site, sur la page des Matins du Samedi sur franceculture.fr. Et on va se quitter avec votre choix musical, Pierre Lemaître. Un choix personnel.
Oui, bah oui, je suis un petit peu en famille ici à France Culture, assez intime. C'est mon fils est chanteur, musicien, chanteur. Il vit à Londres et puisque vous m'aviez proposé de faire écouter quelque chose que j'aime, j'ai choisi de vous faire partager ça.
Victor Maréchal, On the Road.
Coming at a crossroads, you see a clown, a dwarf, and a bearded woman. A strongman, a giant, and an old magician sat around the fire, talking.
Miroir de nos peines est édité chez Albin Michel et je signale quand même la sortie en bande dessinée de Couleur de l'incendie, le deuxième volet. Vous avez adapté en bande dessinée avec Christian de Metter, avec qui vous aviez déjà fait le premier. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Pierre Lemaître.
Merci à vous de votre invitation.
Et tout de suite, à 7h40, c'est La Fabrique médiatique.